Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Ciao, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Ogura Yui. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kaze avec la chronique du volume 16 de Silver Diamond, la chronique du volume 5 de Nabari et la chronique du volume 2 de Sprite. On aura ensuite un petit point sur les sorties manga de la semaine. On continuera à parler culture avec Les Secrets du Saké. On aura ensuite une petite actualité avec le réalisateur Sono Sion qui est accusé d'agression sexuelle par plusieurs actrices. Et on finira l'émission avec une petite news musicale concernant DPR qui sera en France en novembre 2022. Donc je vous donnerai plus d'informations, de détails et les tarifs. Voilà. On commence donc avec la première chanson de l'émission. C'est Omaini wa Kainesa de The Riders et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Ogura Yui. C'était The Riders avec la chanson Omaini wa Kainesa. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Ogura Yui. Donc c'est une chanteuse de pop, parolière et seiyuu japonaise qui est née le 15 août 1995. Elle est donc âgée de 26 ans. Elle est née à Gunma au Japon et elle est en activité depuis 2008. Elle fait partie des agences King Amusement Creative et King Records depuis 2008, ainsi que des groupes Jigoku no Sata All Stars, Neuron Crimsoft, Dropstars, Ongaku Shoujo, Rokyubu, Fortuna et More More Jump en tant que chanteuse. Et elle a également fait partie de plusieurs groupes. On a Happy Style de 2008 à 2011, Team Decaris en 2009, Yui Kaori de 2010 à 2017, Stylips de 2011 à 2013 et Utagumi Setsugetsuka en 2013 en tant donc que chanteuse pour tous ces groupes. Donc Ogura Yui rejoint en 2008 la nouvelle unit de l'agence Upfront Style, donc le groupe Happy Style. La même année, elle devient le modèle de danse en motion capture pour le personnage de Vocaloid Hatsune Miku. En 2009, elle rejoint également la sub-unit du groupe Team Decaris avec Matsunaga Mao Noto Arisa et Ishihara Kaori pour promouvoir le jeu Tetris d'Ecaris de Sega. L'unité se sépare peu de temps après. En mai 2010, elle forme avec Ishihara Kaori un nouveau duo appelé Yui Kaori. En 2011, Happy Style se sépare après le départ du président du label. Yui prend ensuite part au groupe de seiyuu Rokubu pour chanter les génériques de l'anime dont elle double un personnage. Elle rejoint également une nouvelle unit, Stylips, avec les anciennes membres de la team d'Ecaris pour chanter le générique de l'anime High School D&D. Elle annonce en avril 2012 ses débuts en solo avec le single Raise, qui sert de générique de fin pour la série Campione, dont elle double un personnage. Puis, après plusieurs singles, elle sort son premier album en mars 2015, intitulé Strawberry Jam. Donc côté discographie, elle a sorti un total de 4 albums. Le premier, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est Strawberry Jam qui est sorti le 25 mars 2015. Et le dernier, c'est Tarte, qui est sorti le 16 février 2022. Elle a sorti 22 singles, le premier Raise le 18 juillet 2012, et le dernier c'est Sekai Wawa World Gujo Sanka, qui est sorti le 8 décembre 2021. Elle a participé à 2 compilations, la première Maware Setsugetsuka Utagumi Setsugetsuka, qui est sorti le 27 novembre 2013, et la dernière c'est H-Core H Driver Best in Kadokawa Anison, qui est sorti donc le 30 septembre 2020. Elle a également participé à 81 OST, donc je vais pas toutes vous les faire. On a notamment l'OST de Soft House Kara en 2009, Rokubu en 2011, Aquarian Evol Eve no Shien en 2012, Kononaka ni Itori Imoto ga Iru en 2013, Seiken Tsukai no World Break en 2014, Girlfriend Beta en 2015, Jukamachi no Dandelion en 2016, Goblin Slayer en 2017, Yukyu Holder Mao Sensei Negima 2 en 2018. On a également Yuna de la pension Yuragi en 2019 et Princess Connect Redive en 2020. Elle a participé à un doujin Socio Crossline qui est sorti le 11 août 2012. Et enfin, elle a interprété 15 génériques d'animés, dont notamment Yunoa no Mori pour l'animé Aquarian Evol, Baby Sweet Berry Love pour Entai Ojino Wara Wanai Neko, Netsuhiro Presence pour Yama no Susume Second Season, Onicom pour Jukamachi no Dandelion, Future Strike pour Vivid Strike, Steady Go et Happy Material pour Yukyu Holder Mao Sensei Negima 2, Ukto Mirai Dreamer et Ukto Yell for You pour Ukto Precure, Destiny pour ZX Code Réunion, Happiness Sensation pour Shadowverse, et enfin Fighting Pose pour l'anime Jaisama wa Kujikenai. On va pouvoir donc s'écouter tout de suite 2 chansons de Ogura Yui. On commence par Yunoa no Mori, qui a servi de 2e ending pour l'anime Aquarian Evol. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 16 de Silver Diamond. この気持ち葉っぱの裏に住んでる
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
C'était Ogura Yui avec la chanson Okto Yal For You qui a servi de deuxième ending pour l'animé Okto Precure. Donc une chanson en featuring avec Tamura Yukari, Tamura Nao, Onizumi Rina et Ikisaka Rie. On passe maintenant à la chronique du volume 16 donc de Silver Diamond. Je rappelle que c'est un shoujo de genre fantasy qui a été écrit par Sugiura Shio et prépublié dans le Ichirashi. La version japonaise est parue aux éditions Tui Shusha avec un total de 27 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue aux éditions Asuka et Kaze avec également 27 tomes. Ce volume 16 est sorti le 8 février 2012 au prix de 6,79€. Donc le résumé de ce tome, Sur leur route, Rakan et son armée sont rejoints par un allié inattendu, le serpent Unohana, accompagné de la jeune Sae. Ces retrouvailles donnent un nouvel espoir à nos héros car le majestueux reptile offre la promesse du soutien de tous ses congénères. Malheureusement, rien n'est encore gagné car à la capitale, la graine d'éternité a poussé, semant mort et désolation. Donc, tandis qu'au palais, Kinrei et le prince tentent d'apprivoiser leur Sanome, qui s'amuse à faire pousser des plantes un peu partout, Rakan et son équipe continuent de progresser. Ils sont aux prises avec des Ayame qui surgissent de plus en plus souvent pour les importuner. Mais un élément majeur va chambouler leur voyage, le serpent Unohana rejoint en effet le petit groupe de rebelles et avec lui une certaine Sae qui retrouve son frère, un peu étonnée de voir qu'il semble avoir des tendances gays. Mais si cet humour d'auteur frustré ou de mauvais genre aura tôt fait de s'atténuer, ce ne sera pas le cas de la gêne entre eux. En parallèle, il se passe énormément de choses, les anciens compagnons de Kinrei découvrent la trahison de leur maître, des plantes se meurent parce que le prince n'arrive pas à atteindre les habitants des villages concernés, et après avoir vaguement oublié le gros serpent, notre groupe décide de partir pour la capitale. Donc pour de vrai cette fois, parce que la graine d'éternité a poussé et commence à dévorer tous les habitants. Voilà ce que notre héros attendait depuis une quinzaine de tomes, que tout le monde soit au bord de la mort. Et en attendant, ils se sont promenés. On imagine donc enfin que la quête est lancée, que l'histoire va bouger, mais l'auteur nous coupe les ailes en plein vol. Certes, il y a de l'action dans ce tome, mais si c'était pour voir un homme qui a ingurgité un remède étrange pour devenir plus fort, qui attaque nos héros et se plante majestueusement malgré sa soi-disant force, le tout se finissant sur un happy end du genre « Rakan, j'étais aveuglé, je regrette de vous avoir attaqué », alors qu'il nous était présenté comme un méchant bien méchant, ça a de quoi nous laisser sur notre faim, surtout que ces événements sont réglés en quelques pages à peine. On a donc là un tome qui fait remonter dans la lecture tout ce qu'on n'apprécie pas forcément dans la série, et pourtant il se passait enfin des choses. Voilà, donc Silver Diamond a retrouvé aux éditions Asuka et Kaze, avec donc 27 tomes qui terminent la série, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est My Jaws Are Tight de The Star Club et on reviendra juste après pour la chronique du volume 5 de Nabari.
Let's go.
Donc c'était The Star Club avec la chanson My Jaws Are Tight. On passe maintenant à la chronique du volume 5 de Nabari. Donc je rappelle que c'est un shonen de genre fantastique qui a été écrit par Kamatani Yuki et prépublié dans le G-Fantasy. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix avec un total de 14 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Asuka et Kaze avec également 14 tomes. Ce volume 5 est sorti le 27 août 2009 au prix de 7,69€. Donc le résumé de ce tome, Raimei a perdu son combat contre son frère Raiko, assassin à la solde des Kairoshu. Elle est gravement blessée et s'est fait prendre le gamin noir de la famille Shimizu. Miharu a pris la décision d'utiliser la technique secrète du Shinrabansho afin d'aider Yoite soit à disparaître, soit à survivre au Kira qui consume progressivement son énergie vitale. Mais Tobari ne laissera pas Miharu prendre le risque de libérer la puissance ultime. Donc suite logique de l'opus précédent, ce tome 5 vient conclure l'arc sur le passé du clan Shimizu. Il faut dire que le dernier tome ne nous avait pas épargnés, la tension montait de tous les côtés et Raimei se confrontait à son destin, en l'occurrence son frère, dont elle a juré de se venger. Pourtant le volume s'ouvre sur la dispute entre Miharu et Tobari. Peu d'action et de révélations pour ce chapitre, nous nous contentons de contempler l'évolution d'un Miharu un peu plus affirmé et le fossé qui sépare ses idéaux de ceux de son professeur. Ce segment du volume, associé à la conclusion de celui-ci, montre que l'auteur avait prévu son coup et compte bien apporter de grands chamboulements à son intrigue. Mais le cœur de volume, c'est bien entendu la suite de la confrontation entre Raimei et Raiko. Attendu au tournant, ce scénario de trahison d'un jeune ninja contre son clan ne déçoit pas une seule seconde. Bien sûr, cela passe par un flashback qui revient en détail sur ce jour fatidique où le destin de tout un clan a été chamboulé et la chose est très bien traitée. Ce retour vers le passé se noue avec le présent de bien des manières. Donc, d'autre part, tous les secrets de l'histoire semblent associés à une certaine nuit qui a tout chamboulé et dont nous connaîtrons très certainement la vérité vers la fin de la série. Belle preuve que l'auteur sait où elle va. Mais aussi, la mangaka nous dépeint plus en profondeur le personnage de Raiko et fait évoluer par la même occasion sa relation avec Raimei. Le personnage s'avère ainsi attachant, crédible, loin de l'image du tueur sanguinaire dont on aurait pu l'affubler. Donc oui, il se passe énormément de choses dans ce volume, entre flashbacks, personnages qui évoluent, l'aspect relationnel entre différents protagonistes mis en avant. Il est donc conseillé de lire ce volume en étant plongé dans l'opus pour ne pas en perdre une miette. Il se dégage énormément de choses à chaque page, le tout va assez vite, mais reste suffisamment développé et passionnant. Le thème de la famille brisée n'est pas rare, mais est ici très bien traité. Ce n'est pas seulement la détresse de Raimei que nous ressentons au fil des pages, mais aussi celle de Raiko qui a su gagner notre estime. Et on aurait tort de déclarer que seuls Raimei et Raiko sont mis en avant dans ce tome, qui laisse une place d'honneur au personnage de Go. Insupportable au volume précédent, le personnage se rattrape afin de devenir attachant, même s'il occupe un rôle évident de faire valoir. Encore une fois, l'auteur a fait un grand pas en avant graphiquement, le tome étant axé sur l'émotion, Yuki Kamatani arrive parfaitement à retranscrire celle-ci par sa mise en scène et son travail graphique sur les personnages. Peu marquant sur le premier tome, le dessin de la mangaka paraît maintenant très maîtrisé et agréable. Plus on avance dans l'histoire et plus Nabari devient passionnant. Ce volume aurait pu être un amas de clichés, mais il n'en est rien. L'histoire est maîtrisée, les événements correctement développés, les personnages fouillés comme il se doit. Ce tome est d'une grande qualité et on en redemande. Gageons qu'étant donné le final de ce volume, l'intrigue va peut-être prendre un tournant différent au prochain volet. Voilà, donc Nabari a retrouvé en 14 tomes aux éditions Asuka et Kaze. On va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Ikari de Elisa qui a servi de premier ending justement pour l'anime Nabari no O. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Donc c'était Elisa avec la chanson Ikari qui a servi de premier ending pour l'anime Nabari no O. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on aura des sorties mercredi 13 avril avec chez Panini le volume 1 de 21st Century Boys, la Perfect Edition, le volume 2 de BEM et le volume 5 de Kimi no Knife, la réédition 2021. Ensuite aux éditions Kaze, vous pourrez découvrir tout plein de nouvelles séries. Avec donc le pack découverte de Agent of My Heart, le pack découverte de Call Game, le pack découverte de Check Me Up et le pack découverte de Takane et Anna. Et vous aurez également la sortie du volume 25 de Twin Star Exorcist. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 2 de Ayakashi Triangle. Aux éditions Soleil, le volume 4 de Black Marriage. Le volume 1 de Excuse Me Dentist, It's Touching Me. On aura également le volume 2 de Harimakito, magicien et sauveur de sorcières. Le volume 6 de La sorcière invincible, tueuse de slime depuis 300 ans. Et le volume 5 de Suikoden 3, l'édition 2021. Aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 9 de Candy and Cigarettes. Aux éditions Paquet, la sortie du volume 2 de La bicyclette rouge, la réédition 2022. Aux éditions Futuropolis, on aura le volume 1 de la saison des pluies. Et aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 9 de Sailor Moon, l'édition Eternal. Pour jeudi 14 avril, ensuite, on aura des sorties chez Kurokawa avec le volume 6 de 008 Apprenti Espion, le volume 6 de Demon Slave, le volume 13 de Hippo de la saison 6, le volume 5 de Moi quand je me réincarne en Slim, comment vivre chez les monstres, le volume 14 de My Home Hero et le volume 1 du traité du gouvernement civil. Aux éditions Omake Books, on aura la sortie du volume 2 de Android Type 1, le volume 2 de Bloody Cruise et le volume 7 de Many Reasons Why. Aux éditions Akata, on aura la sortie du volume 1 de L'Arrache-Chair et aux éditions Dynamite, le volume 1 de Tits, Tits, Tits. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 15 avril avec chez Kana, le volume 13 de Atom, The Beginning, le volume 31 de Black Butler, le volume 72 de Gintama, le volume 7 de Mission Yozakura Family, le volume 1 de Sweet Concrete, le volume 13 de Time Shadows qui sera le dernier tome de la série, le volume 8 de Yawara et le volume 54 de The Taikaren Children. Aux éditions Shiba Edition, on aura la sortie du volume 3 de Colorless, aux éditions Noef Crafts, le volume 1 de Copelion, le volume 1 de Elegant Yokai Apartment Life, le volume 1 de Ozuki le Stoïque et le volume 2 de Wakusei Closet. Aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 5 de Dice, le volume 10 de Soul Land et le volume 15 de Tales of Demons and Gods. Aux éditions Isan Manga, la sortie du volume 3 de Goku. Aux éditions Taifu Comics, on aura le volume 4 de Killing Stalking. Aux éditions Chato Chato, on aura les volumes 1 et 2 de Zombie From No One. Et on aura, pour finir, aux éditions Vega Dupuis, la sortie du volume 9 de Zozo Zombie. Voilà. Du coup, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Uragiri no Yuyake de Théâtre Brook, qui est servi de premier opening pour l'anime Durara. Et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké. Uragiri no yuyake yakai ni karamitsuku asebo kiri saku you ni shite machine wa sakebu utau you ni blow out loud fukuchi ne yousei wa soko ni iru blow out loud tsunai wa kudaketai no ka donc, c'était Theater Brook avec la chanson Uragiri no Yuyake qui est servie de premier opening pour l'anime Dorarara. On passe maintenant à la partie culture, on va continuer à parler des secrets du saké à partir du livre de Siméon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nichō. Donc on va parler du secret numéro 16, quel riz utilise le brasseur? Donc il existe différents riz. Historiquement, les spécialistes s'entendent généralement pour classifier le riz cultivé en trois grandes familles. Donc si l'on peut brasser du saké à partir de n'importe quel riz, la variété japonica est très largement privilégiée par les brasseurs de saké. Donc on a le riz indica, 80% de la population mondiale, le riz javanica qui est le plus gros et le plus large, et le riz japonica qui est cultivé principalement au Japon. Donc la famille japonica comprend actuellement de très nombreuses variétés de riz, environ 270 sont cultivées au Japon, et qui sont réparties à peu près équitablement en deux clans. Mais de nouvelles variétés issues de croisements apparaissent régulièrement. Donc ces deux clans sont le riz shokumai et le riz sakamai. Les riz shokumai sont des riz dont la destinée est bien sombre. Ils sont cultivés pour être mangés. En d'autres termes peuvent être utilisés pour les désigner comme ipanmai, anmai, etc. Les riz sakamai sont quant à eux destinés à la production du saké. Les professionnels préfèrent les appeler chuzo kotekimai, un terme qui désigne les variétés de riz dont les caractéristiques physiques permettent de brasser des sakés de qualité, alors que le nom sakamai, plus populaire, ne désigne que l'objectif final. Donc on a deux catégories qui se distinguent, le shokumai et le sakamai. Donc les shokumai sont des riz appréciés pour le repas. Absolument délicieux, ils sont aussi utilisés pour le brassage de plus de 65% des sakés au Japon. Ces sakés seront souvent des futsu, mais on les retrouve aussi dans la catégorie premium via les junmai. La variété des shokumai les plus connus sont le koshihikari, l'akita komachi ou encore l'itomebore. On a ensuite donc le sakamai. Pour des sakés de plus grande qualité, on utilise du riz spécial à saké, populairement appelé sakamai. Plus cher, plus difficile à récolter et à manipuler, il convient pourtant mieux pour le saké. Ces riz utilisés pour les sakés premium comprennent eux aussi de fiers représentants que l'on retrouve régulièrement sur les étiquettes de notre boisson favorite. Les trois variétés les plus cultivées sont le Yamada Nishiki, le Goyaku Mangoku et le Miyama Nishiki. Le sakamai est généralement plus lourd que le shokumai, de l'ordre de 20 à 30%. Sa grosseur impacte donc la récolte, les tiges se courbant davantage sous le poids des grains, le riz sera plus difficile à récolter car plus sensible à l'averse. Donc on a tous les riz contiennent de l'amidon, 70 à 75% d'un grain de riz est composé de glucides, l'amidon étant le glucide principal, mais selon le type de riz, il n'est pas réparti de la même façon. Donc dans le shokumai, l'amidon est réparti un peu partout, alors que dans le sakamai, cet amidon est concentré souvent en son centre, donc on appelle ce centre le cœur blanc ou shinpaku, et cela va donc avoir une incidence sur le polissage du grain. Voilà, du coup, on continuera à parler des secrets du saké la semaine prochaine, en attendant on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. On va s'écouter Ryusei de Tia qui est servi de 6ème ending pour l'anime Naruto, et on reviendra juste après pour la chronique du volume 2 de Sprite. I'm not afraid to die. Donc c'était Ryusei de Tia qui a servi de sixième ending pour l'anime Naruto. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de Sprite. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, science-fiction, surnaturel, thriller, qui a été écrit par Ishikawa Yugo et prépublié dans le Big Comic Superior. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 15 volumes qui terminent la série, et la version française est parue aux éditions Kaze avec également 15 tomes. Ce volume 2 est sorti le 13 juillet 2011 au prix de 7,99€. Le résumé de ce tome, les survivants de la catastrophe sont parvenus à descendre dans la rue, mais la ville qui s'étend autour d'eux n'est pas celle qu'ils connaissent. Les bâtiments sont différents, la végétation a repris le dessus, la mystérieuse eau noire semble avoir créé une distorsion temporelle et transporté la partie émergée du gratte-ciel dans le futur. Un futur déserté sur lequel plane une menace monstrueuse. Donc le premier tome se terminait sur un cliffhanger, laissant envisager que les protagonistes de Sprite ont fait un bond dans le temps. On aura donc la confirmation de ce phénomène dès le début du second opus. Sou et ses compères sont donc coincés en 2060, dans un Tokyo différent de celui qu'ils connaissent. Ce nouveau monde ne tranche pas radicalement avec l'ancien, c'est juste qu'il est dégradé. Les bâtiments sont en ruine, le sol est fissuré et surtout, il n'y a pas un chat dans les rues. Enfin, pas un chat, c'est vite dit, parce qu'il ne faudra pas attendre longtemps pour voir les protagonistes de Sprite se faire attaquer par des insectes géants. Puis, l'un des Lost Children se fait enlever par ces créatures improbables. Pendant qu'un groupe parmi lequel on retrouve Sou part en expédition pour le sauver, un autre reste à l'hôtel. Sou et ses compagnons se retrouvent donc à la poursuite des monstres dans les souterrains de Tokyo. Donc c'est un passage marquant car le lecteur s'imprègne du huis clos ressenti par les personnages. De plus, on apprend une révélation importante sur le passé de l'intrigante héroïne. Les personnages restés à l'hôtel font quant à eux une rencontre inattendue. Des habitants pour le moins bizarres de ce nouveau Tokyo vont les accueillir de manière quelque peu brutale. Donc à l'image du premier volume, on retrouve plusieurs références à différents mangas et jeux vidéo. Avant tout, Yugo Ishikawa fait référence à Kappa no Kaikata, son premier succès, le manga a d'ailleurs été adapté en série animée et en jeu vidéo, et qui est malheureusement inédite en France. L'auteur fait également allusion à la PlayStation 5, à Doraemon ou encore à la série Gundam. Ce genre de détail est très plaisant à souligner quand on apprécie l'univers du manga et des jeux vidéo. La narration de ce volume prend quant à elle plusieurs directions sans que cela soit confus. Il y a bien sûr quelques maladresses, mais elles sont gommées par le fait qu'on ne devine pas où l'auteur nous emmène. Entre le voyage dans le temps et les insectes géants, la touche de surnaturel est importante dans Sprite. On ajoute à cela un virus mystérieux comparé à la peste, et une dose de mysticisme dont on ignore si elle va prendre de l'importance, et on obtient un mélange savoureux. Ce second tome confirme donc que nous sommes face à une très bonne série. Je rappelle que Sprite est à retrouver avec 15 tomes aux éditions Kaze. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Spiral Parade de Tekei de Lintoste Sigure, et on reviendra juste après pour une actualité au Japon. c'était Spiral Parade de TK du groupe donc Lintoste Sigure. On passe maintenant à l'actualité au Japon. L'information a été révélée dans la presse japonaise et a fait le 6 avril dernier le tour des médias internationaux. Connu pour ses films Suicide Club, Love Exposure, Cold Fish, Why Don't You Play in Hell ou encore Anti-Porno, le réalisateur nippon Sono Sion est accusé d'agression sexuelle par plusieurs actrices. De nombreuses actrices, entendues par la revue Shukan Josei Prime, se sont en effet exprimées sur le sujet de façon anonyme, expliquant que le cinéaste s'en serait pris à elles, notamment durant ses ateliers d'acting. Enfant terrible du cinéma japonais, Sono Sion est bien connu pour sa vision controversée du 7e art. Il ne s'est pour l'heure pas encore exprimé clairement sur le sujet, mais déjà ses pairs lui jettent la pierre. L'acteur Yuki Matsuzaki, notamment, a publié un tweet dans lequel il réclame justice. Récemment, deux autres acteurs japonais ont été accusés d'agression sexuelle, Oka Kinoshita et Hideo Sakaki. La sortie japonaise de leurs films respectifs avait alors été tout simplement annulée. Voilà, on va du coup pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est I Love You, Bang Bang Boom de T-Max. Et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Donc c'était T-Max avec la chanson I Love You, Bang Bang Boom. On passe maintenant à la news musicale donc pour finir cette émission Asian Bubble. Annoncé par les organisateurs Cult of YA sur leurs réseaux sociaux, les artistes coréens DPR, regroupant DPR Yan, DPR Live et DPR Crime, seront donc à Paris le 4 novembre 2022 sur la scène de la salle Playel à l'occasion de leur tournée mondiale The Regime World Tour. Au programme, le groupe visitera 6 pays européens pour 8 dates annoncées. Donc sans plus tarder, voici les différentes informations concernant le concert. A noter que d'autres informations pourraient être révélées plus tard par Cultofia, Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre, à les suivre donc sur leur compte Twitter. Pour les dates de ces concerts, on a donc le 4 novembre 2022 à Paris, le 6 novembre à Amsterdam, le 7 à Munich, le 8 à Berlin, le 10 novembre à Bruxelles, le 11 novembre à Copenhague, le 13 à Londres et enfin le 14 novembre à Manchester. Pour le prix des billets et le contenu, donc le prix du billet VIP est à 130€ avec une entrée prioritaire à 18h et une photo avec les artistes par groupe de 5 personnes, donc elles seront postées ensuite sur la page Facebook de Cultofia après le concert. On a également le pit standing à 52,50€, soit vous serez par terre et debout. On a le carré or à 55€ où vous serez par terre en étant surélevé et assis. Et ensuite, pour toutes les autres catégories, donc catégorie 1 à 40€, donc assis, catégorie 2, 35€, catégorie 3, 30€, et catégorie 4, c'est 25€. Donc vous serez assis, mais par contre, vous êtes prévenu, la visibilité sera quand même réduite. Le prix des billets n'inclut pas les taxes et frais de billetterie. A noter que les places VIP apparaîtront comme des places pit standing, donc à 52,50€ pour les places debout, avec en plus les bénéfices VIP, donc à 77,50€ pour la prestation, avec donc les frais en plus. Pour la vente générale des billets, ça se passera vendredi 22 avril 2022 à 11h sur différentes billetteries. On aura notamment donc la vente sur Ticketmaster, où vous pourrez trouver toutes les places dont les VIP et les pit standing. On aura également la vente sur le site de la salle Playel, pour toutes les places également sauf les VIP. Et enfin, vous pourrez trouver les billets sur la FNAC pour toutes les places, sauf les VIP. Pour les horaires maintenant du concert, donc on aura à 18h l'entrée des VIP et la photo avec les artistes. À 19h, ça sera l'admission générale. À 20h30, le début du show. Et à 22h30, la fermeture des portes. Le programme est toutefois sujet à changement. Et concernant le règlement, si vous avez moins de 16 ans, vous devrez être accompagné d'un parent ou être muni d'un formulaire d'autorisation parentale que vous pourrez retrouver sur le site du Cultofia à la page de l'événement. Vous devrez également avoir une pièce d'identité avec vous. Les caméras appareils photo et perches à selfie seront quant à eux interdits. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, on va pouvoir s'écouter tout de suite la chanson Kiss Me de DPR Live, donc pour voir un peu ce que donne ce groupe, ce regroupement de groupes coréens DPR. Voilà, si vous voulez aller les voir en concert, donc je rappelle que c'est le 4 novembre prochain à Paris. C'est ce qui va donc finir l'émission d'Asian Bubble cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission donc Asian Bubble, mais aussi pour mon autre émission Cordialement Geek, que vous pourrez retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h sur Neptune, comme d'habitude. Sinon, ça sera lundi prochain. Non, pas lundi prochain, parce que lundi prochain, c'est Pâques. Donc, le lundi d'après, dans 15 jours, on se retrouvera de 21h à 22h pour une nouvelle émission. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
Artificial lies, no. Sometimes you cry, but I'm here for you right now.